France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Au 8e jour de la guerre entre Israël et l'Iran, la paix est-elle encore possible? 3 ministres européens ont prévu de tenter aujourd'hui de ramener Téhéran à la table des négociations. En attendant, les affrontements entre les deux ennemis se poursuivent. On tâchera de dresser le bilan de cette première semaine de conflit, puis on se rendra à Jérusalem pour constater le très large soutien aujourd'hui de la population à la stratégie belliciste de Benjamin Netanyahou. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, on verra avec notre invité comment le HCR se retrouve aujourd'hui bousculé dans son fonctionnement. À suivre également la guerre commerciale entre Bruxelles et Pékin. On parlera aussi de l'avenir énergétique de la France. Enfin, on s'interrogera comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants. Si depuis des mois déjà, les jours comme les nuits au Proche et Moyen-Orient sont traversés par les lumières des salves de missiles, la déclaration de guerre ouverte lancée par Israël à l'Iran la semaine dernière aura plus que jamais plongé toute la région dans la sidération et l'inconnu. Ce matin, les affrontements entre les deux ennemis sont donc entrés dans leur deuxième semaine. Éric Biégala, bonjour.
Bonjour Thomas.
On va essayer avec vous de dresser un premier bilan, même si les chiffres, Éric, sont encore parfois compliqués à estimer.
Oui, très compliqués, bien sûr. Hein. C'est normal d'ailleurs. Pour chaque bombardement, chaque tir, chacune des deux parties est censée repasser derrière l'objectif pour voir si celui-ci a bien été touché, a été raté, a été détruit, si le bombardement doit être poursuivi, continué. Toute publication intempestive du lieu précis ou de l'heure de la chute d'un engin est une source de renseignement pour l'adversaire. Tout le monde est donc censé s'en abstenir. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Israéliens ont lancé vendredi 13 une campagne militaire classique, avec une toute première phase que les militaires appellent SAED pour Suppression of Enemy Air Defense, suppression des défenses anti-aériennes ennemies en français, et ce pour obtenir au plus vite la maîtrise du ciel. Campagne qui semble avoir été couronnée de succès. Ils ont la maîtrise du ciel ouest iranien, au moins jusqu'à Téhéran. Cela permet à leurs avions des frappes beaucoup plus précises, par exemple sur les infrastructures militaires et autres de la capitale. En réponse, les Iraniens ont lâché leurs drones d'attaque et surtout leurs missiles balistiques longue portée, longue distance sur Israël. Alors combien? Difficile à dire là aussi, ou même à estimer. De quel stock de ces engins les plus dangereux dispose encore l'Iran? Combien de lanceurs de ces missiles sont encore opérationnels? La question reste ouverte. Et avec quel résultat? Eh bien, un nombre de ces missiles ont été interceptés, la plupart d'ailleurs. Quelques-uns ont réussi à passer au travers des mailles du filet israélien, mais on ne sait pas ce qui a été atteint. Israël évoque publiquement une dizaine de morts et quelques centaines de blessés, mais ne parle là que des civils.
Merci Éric Biégala. Alors, si le choix de la surenchère militaire peut apparaître comme un pari risqué, qui plus est dans une région du monde en proie au chaos, ce choix est aujourd'hui totalement assumé par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, convaincu qu'il est que sa tactique offensive mortifère sera couronnée de succès, de la bande de Gaza au Yémen en passant par le Liban et désormais l'Iran, et ce d'autant plus qu'il est soutenu en cela par une majorité de la population. Peu importe donc si, comme ce matin encore, les sirènes d'alerte aérienne ont à nouveau retenti dans plusieurs régions d'Israël après des tirs de missiles iraniens. Michel Paul, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de RFI pour France Culture à Jérusalem. Bien que plongée dans un véritable déchaînement de violence, la population israélienne habituée à se préparer au pire semble à présent encourager son Premier ministre va-t-en-guerre.
Oui, alors on peut parler d'un large soutien de la population en Israël pour l'offensive menée en Iran. Selon un sondage réalisé ces derniers jours par l'Institut israélien de la démocratie, plus de 80% des juifs israéliens soutiennent les frappes déclenchées le 13 juin. Et le quotidien Mariv publie ce matin une autre enquête qui montre, elle, que pour la première fois depuis des mois, le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, arriverait en tête dans tous les cas de figure en cas d'élection. En fait, depuis le début de l'opération, le parti a gagné 5 sièges. Soutien de l'opposition également. Son chef Yair Lapid, qui est régulièrement briefé par Netanyahou sur le déroulement de la guerre, affirme qu'il souhaite toujours le départ du Premier ministre, mais pas pendant ce combat qu'il qualifie de vital. L'ex-Premier ministre Naftali Bennett, le principal adversaire potentiel de Netanyahou, proclame pour sa part « il n'y a ni gauche, ni opposition, ni coalition lorsqu'il s'agit de freiner l'Iran ». Plus de manifestations de masse non plus en raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes, sécurité oblige, et les quelques rares manifestants isolés qui ont malgré tout protesté contre la guerre ont été interpellés sans ménagement par les forces de police.
Merci Michel Paul à Jérusalem. Alors si Israël et la République islamique continuent à se bombarder, certains redoutent que le conflit dégénère en guerre généralisée. Une nouvelle réunion est d'ailleurs prévue aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'escalade du conflit. De son côté, Donald Trump s'est laissé 2 semaines avant de décider d'une éventuelle intervention armée en Iran. Une décision que la Maison-Blanche présente comme une dernière chance donnée à la diplomatie. Une manière peut-être aussi de renforcer ses propres options militaires à l'heure où des troupes américaines sont en train de converger vers le Moyen-Orient. Enfin, les chefs de la diplomatie de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont prévu de rencontrer aujourd'hui à Genève leur homologue iranien, à qui ils devraient faire une offre de négociation complète comme une ultime tentative, là encore, d'appeler à la désescalade. Enfin, ce matin, Emmanuel Macron a lui demandé que le gouvernement organise un débat au Parlement sur la guerre Iran-Israël et promis de réunir les chefs des partis politiques pour échanger sur ce conflit, mais aussi sur la situation à Gaza et la guerre en Ukraine.
Les violences contre les enfants en zone de conflit ont atteint des niveaux sans précédent en 2024.
Avec une hausse sidérante de 25%, ce nouveau record bat celui enregistré en 2023 qui lui-même représentait une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. Tués, mutilés, enlevés, violés, les cris de ces dizaines de milliers d'innocents qui auraient dû apprendre à lire ou à jouer au ballon, mais au lieu de cela ont été obligés d'apprendre à survivre aux tirs et aux bombardements, devraient tous nous empêcher de dormir, a lancé hier la représentante spéciale de l'ONU. Alors les territoires palestiniens visés par l'armée israélienne occupent en l'occurrence la première place de ce sinistre classement, et toujours sur cette liste de la honte viennent ensuite la République démocratique du Congo, la Somalie, le Nigeria et Haïti. Et puis avec la multiplication partout des conflits se pose également une autre question, celle des réfugiés. À la fin de l'année dernière, une personne sur 67 dans le monde était un déplacé de force, soit quelque 123 millions d'hommes, de femmes et d'enfants au total, ce qui inclut notamment les réfugiés sous le mandat du HCR. Le Haut Commissariat de l'ONU, qui en raison du manque de financement se retrouve aujourd'hui contraint à devoir miser sur une réduction mondiale de ses coûts de personnel. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Sabine Dini, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Clermont-Auvergne, par ailleurs enseignante à Sciences Po Paris. Bonjour madame.
Bonjour.
En 2024, on comptait 7 millions de personnes déplacées de plus dans le monde que l'année précédente. Or, si l'on considère que les solutions donc durables pour les réfugiés sont directement liées aux efforts visant à la recherche de la paix, il y a tout lieu de craindre que cette augmentation va se poursuivre dans les années à venir. Est-ce qu'il faut en déduire que les besoins en termes d'accompagnement des réfugiés sont aujourd'hui plus élevés que jamais ?
Ils sont en effet aujourd'hui plus élevés que jamais, et le HCR, qui a depuis plusieurs décennies un rôle opérationnel d'acteur humanitaire et qui fournit une aide matérielle aux personnes sous statut de réfugiés, aide alimentaire, aide à la santé, est déjà en grande difficulté depuis plus d'une décennie. Les rations de nourriture qui sont fournies aux réfugiés sont très insuffisantes pour les nourrir, les soins médicaux qui sont prodigués ne permettent pas de soigner correctement, et les enfants peinent à être scolarisés dans les camps de réfugiés. Donc la multiplicité des fronts qui se sont ouverts et qui viennent s'ajouter aux réfugiés de longue date, 1 million de Rohingyas au Bangladesh, encore 500 000 Somaliens au Kenya, font peser, pèsent sur les épaules du HCR.
Je l'évoquais brièvement en introduction, effectivement le financement de cette aide connaît des turbulences, et notamment depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous l'avez en partie évoqué, comment ces coupes budgétaires affectent les activités du HCR ?
Alors, en janvier de cette année, le président Trump avait dit qu'il allait geler l'aide étrangère américaine. Pour le HCR, ça n'a pas été chiffré. On ne sait pas combien de millions ont été coupés. On sait en comparaison que l'OMS a perdu 500 millions pour un budget à peu près identique à celui du HCR. En tout cas, le haut commissaire Filippo Grandi a fait un certain nombre de déclarations. Il a d'abord dit qu'il allait allait être coupé 600 postes relevant 600 postes de membres du HCR qui s'occupaient des processus d'accueil des réfugiés aux États-Unis, puisque Trump y a mis un terme, que la moitié des postes de direction allait être coupée. C'est entre 100 et 200, c'est assez peu clair. Mais surtout qu'il allait réorganiser le maillage des bureaux du HCR dans le monde en fermant un certain nombre de bureaux locaux pour favoriser une organisation régionalisée. La conséquence, la seule conséquence qu'on a pu observée jusqu'à présent, c'est la fermeture des bureaux locaux au Mexique, qui était financée à 86% par le président, par les États-Unis, et qui font que les environ 300 000 Guatémaltèques qui traversent la frontière sud du Mexique pour demander l'asile aux États-Unis se transforment, je dirais, en migrants irréguliers au Mexique. Donc c'est une façon de créer aussi une forme de tension avec la présidente socialiste du pays.
Il est important peut-être de rappeler que cette tendance donc à la diminution des ressources allouées par les États ne date pas d'hier. En réalité, elle participe de l'accélération d'un mouvement qui puise sa ressource il y a, on remonte aux années 90, dans ce tournant sécuritaire de la coopération internationale au sujet des migrations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement et pourquoi est-ce que cela atteint justement le HCR ?
Alors, les États-Unis et le HCR ont toujours eu un rapport compliqué à partir du moment où le HCR ne s'alignait pas sur les attentes de la politique étrangère des États-Unis. À partir des années 90, avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, les réfugiés qui arrivaient en Europe et aux États-Unis ont changé. Il s'agissait de réfugiés venant des anciennes colonies et les réfugiés qui auparavant étaient vus comme méritants et devant être accueillis se sont progressivement transformés en dangereux indésirables. Et on a refusé, enfin les États du Nord ont progressivement refusé de les accueillir. Or, cela contrevient à la mission première du HCR, qui est un principe d'accueil universel des réfugiés. Et donc un nouvel acteur a émergé, l'Organisation internationale pour les migrations, qui, elle, a mis en place une gestion sécuritaire de ces migrations qui s'alignait avec les attentes des États. Un deuxième acteur est apparu, ou en tout cas la Banque mondiale, qui s'occupe d'assurer l'insertion locale des réfugiés dans les pays du Sud dans lesquels ils sont retenus, ce que le HCR ne souhaite pas faire.
C'est bien compris. Merci beaucoup Sabine Digny, donc maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université Clermont-Auvergne, par ailleurs enseignante à Sciences Po Paris, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Plus de peur que de mal au Mexique.
Au bout d'une nuit de suspense durant laquelle les autorités avaient préparé la population au pire, l'ouragan Eric a finalement été rétrogradé en tempête tropicale après avoir touché terre sur les côtes sud-ouest du pays sans faire de victimes. Soulagement dans une région traumatisée par deux cyclones majeurs ces deux dernières années.
La loi visant à légaliser l'aide médicale à mourir pour certains malades en phase terminale revient aujourd'hui devant les députés britanniques pour un second vote à haut risque.
Oui, fin novembre, une première version avait été approuvée en première lecture à une courte majorité, sauf qu'après un débat intense, le texte initial a été largement amendé. Soit la Chambre basse l'approuve à nouveau aujourd'hui, auquel cas le texte continuera son parcours à la Chambre des Lords. En revanche, si les députés le rejettent, alors le projet de loi sera abandonné 10 ans après une première tentative infructueuse. Si on parle régulièrement de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, on oublie parfois les multiples conflits qui depuis 3 ans déjà pourrissent les relations entre l'Union européenne et la Chine. Dans un certain nombre de secteurs, économiques, automobiles, électriques, industries ferroviaires, panneaux solaires, éoliennes, mais aussi une grande variété de fournitures de santé allant des masques et pansements jusqu'aux machines et autres robots qui représentent un marché de 150 milliards d'euros dans l'UE. Voilà que ce matin, la Commission européenne a décidé d'exclure les entreprises chinoises des commandes publiques de matériel médicaux, une mesure en représailles aux restrictions touchant les firmes européennes sur le marché chinois. Explication depuis Bruxelles de Fabien Cazot.
Après les voitures électriques, les panneaux solaires et autres éoliennes, voici un nouveau front de guerre commerciale qui s'ouvre entre Bruxelles et Pékin, les matériels médicaux. En réalité, il était ouvert depuis de nombreuses années, se plaint Bruxelles, Pékin interdisant l'accès des machines et robots médicaux européens sur son propre marché. Les marchandises concernées d'un prix supérieur à 5 millions d'euros sont de gros équipements ou de grandes quantités de machines plus basiques comme des scanners ou des appareils IRM. Un marché colossal à l'échelle l'échelle mondiale d'une valeur de plus de 11 000 milliards d'euros par an sur lequel l'Union européenne veut peser. Or la Chine, selon l'enquête diligentée par la Commission européenne depuis plusieurs mois, ferme 87% de ses marchés publics par des pratiques jugées discriminatoires visant à exclure purement et simplement les industriels européens du secteur. Malgré l'annonce de ces mesures de représailles, la Commission dit rester ouverte au dialogue face à la Chine qui dénonce de son côté un double discours européen consistant à fermer son marché tout en disant agir au nom d'une concurrence loyale.
Midi, passé de 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Issu d'un processus long et chaotique, la proposition de loi examinée depuis le début de la semaine par l'Assemblée visant à définir le futur énergétique de la France pour les 10 années à venir aura donné lieu, comme attendu, à de vifs échanges dans l'hémicycle quand les partisans de l'atome, exécutif et RN en tête, cherchaient à s'unir pour réintroduire la relance du nucléaire. La gauche, dans son ensemble, déplorait que le projet ne fixe plus de part des énergies renouvelables à atteindre dans la production d'électricité. Or voilà qu'hier, les discussions sont devenues carrément électriques, en effet, avec l'adoption surprise d'un moratoire sur le développement de nouvelles installations éoliennes et photovoltaïques. Laurence Mérite, bonjour.
Bonjour.
La mesure introduite par la droite et soutenue par l'extrême droite a provoqué, Laurence, l'indignation du reste de l'hémicycle et du gouvernement.
Un vote parfaitement irresponsable, selon le ministre de l'Énergie. L'amendement prévoit le redémarrage, vous l'avez dit, de la centrale nucléaire Fessenheim, par exemple, arrêtée il y a 5 ans. Une suspension des installations solaires, suspension immédiate et aussi de l'éolien. Des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu, selon Marc Ferracci. L'écologiste Léa Ballard Gelmarie qui, elle, n'en revient toujours pas.
C'est le festival des horreurs et de l'anti-science. C'était absurde. Ils nous ont expliqué que les énergies renouvelables, c'était pas des énergies françaises. Par contre, le nucléaire, c'était une énergie française. Et là, il va falloir m'expliquer. Les énergies renouvelables, c'est des filières françaises.
Si l'amendement passe, c'est parce que les 3/4 des députés sont absents. Les bancs de la gauche, notamment, quasiment vides. Mais pour Léa Ballard-Gelmariki, c'est l'absence du bloc central qui pose problème.
Eux, ils ne font rien. Ils sont pas là. On nous courait après dans les couloirs en disant « restez, restez, restez ». Et c'était à nous de sauver le bilan d'Emmanuel Macron. Enfin, ça va pas non plus.
Le Rassemblement National est donc en majorité dans l'hémicycle, le député RN Jean-Philippe Tanguy.
Moi, je ne me satisfais pas de l'absence de mes adversaires. Je préfère le débat. Le seul coup politique que j'assume, c'est d'avoir choisi un amendement des Républicains qui était un copier-coller de ce que propose Marine Le Pen pour les mettre face à leurs contradictions.
Une question se pose désormais. La loi va-t-elle être adoptée en l'état ? Les macronistes hésitent entre voter pour ou céder à la stratégie du RN et voter contre leur propre texte lors du vote solennel prévu mardi. Avant un retour au Sénat le 8 juillet, les sénateurs devraient, selon l'entourage du rapporteur Antoine Armand, supprimer le moratoire, rendre au texte sa nature initiale.
Merci Laurence Méride. Après la convention citoyenne sur le climat, puis celle sur la fin de vie, Emmanuel Macron avait annoncé au début du printemps et à la surprise générale la tenue d'une nouvelle convention sur les temps de l'enfant ou comment réfléchir au quotidien à la fois scolaire et extrascolaire des plus jeunes. Alors celle-ci doit s'ouvrir aujourd'hui à Paris, composée de Français tirés au sort, sauf qu'elle suscite déjà le scepticisme au sein de la communauté éducative. Pourquoi ? Parce que si le rythme scolaire comme la durée des vacances reste des sujets inflammables, les syndicats d'enseignants voient surtout dans cette énième convention citoyenne un moyen pour le chef de l'État de faire diversion, alors que les urgences sont ailleurs. C'est du moins l'analyse de Sophie Vénétitet, secrétaire générale du SNES FSU. Elle le dit à Julie Paco.
On a vu sur la convention citoyenne sur le climat qu'il y avait quand même un grand nombre de propositions de la convention citoyenne qui n'avaient pas été reprises, alors même que Emmanuel Macron avait promis un grand exercice de démocratie directe et participative. On voit bien que derrière, il y en a très peu qui ont été reprises ainsi. Donc c'est là qu'on voit que c'est quand même un outil très très politicien, un outil qui permet de faire diversion par rapport au vrai sujet. On espère que cette convention citoyenne ne sera pas l'occasion d'un grand exercice de prof bashing qui viserait à critiquer les professeurs pour leurs prétendues grandes vacances. Il ne faudrait pas que cet exercice devienne une sorte de défouloir collectif sur une profession qui est déjà bien éprouvée. L'éducation nationale est dans une crise profonde. Elle manque de tout, elle manque de professeurs, elle manque de moyens. Et aujourd'hui, la priorité n'est pas de parler des temps de l'enfant, n'est pas de parler des vacances. La priorité, elle est enfin d'avoir un budget qui soit à la hauteur hauteur des enjeux de l'éducation nationale. Et c'est pas en organisant une grande convention citoyenne sur les temps de l'enfant qu'on va mettre un professeur devant chaque classe tout au long de l'année.
Sophie Vénétité, donc secrétaire générale du SNES FSU, elle répondait à Julie Paco. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi estival sur l'ensemble du territoire. L'Hexagone connaîtra même sa première vague de chaleur de l'année avec des températures comprises entre 26 et 35 degrés. 16 départements, majoritairement dans l'Ouest, ont été placés en vigilance orange canicule. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia et à 18h, vous avez rendez-vous avec Julie Paco pour le prochain journal de la rédaction.